Canal FM 93.5.
Le club de la presse, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 11h sur Canal FM.
Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain, que la liberté?
Tout ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel.
Des gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Ils sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc du coup, je pense véritablement que
il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous sommes au mardi 30 avril 2024. C'est le dernier jour même d'ailleurs de ce mois d'avril. Il sont 11h passées de quelques instants sur la nouvelle génération. Merci de nous recevoir pour ce deuxième numéro de l'émission Club de la presse pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas était d'ATV sur la mise en onde. Jérôme Dakouta est à la mise en ligne. Je suis au micro Pascal Lossou. Merci à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nekro, Radio La Paix à Takpame, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous pouvez également nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, vous le savez très bien, et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, Eric Pakoudjo, Hugues est là, Johnson bien sûr. Bonjour Eric.
Bonjour Pascal, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM.
Et comment dans l'ensemble, on a bien entamé la semaine?
Ah oui, vraiment un peu fatigué, mais bon, ça va.
Fatigué, il y a de quoi, puisque déjà hier, nous étions dans les unes, je veux bien parler alors des Togolais, justement avec les journalistes, je pense que ça a été avec des tracasseries.
Oui, évidemment, il fallait passer par plusieurs bureaux de vote pour regarder un peu ce qui se passe après avoir accompli notre devoir citoyen. Nous nous sommes déplacés un peu partout pour voir si tout allait bien et faire enfin nos appréciations sur le vote, parce que pendant 2 semaines, nous avons essayé aussi de courir un peu partout dans toutes les circonscriptions électorales pour voir si la campagne se déroulait dans de très bonnes conditions. Alors, je sais qu'on va en parler.
Tout à fait, on va en parler.
Pour le moment, voilà à peu près ce qui s'est passé hier.
Tout à fait.
Et évidemment, c'est un peu fatigant, mais bon, à la guerre comme à la guerre.
À la guerre comme à la guerre. Nous reviendrons largement sur le sujet tout au long de cette émission. Isidore Kolo, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous.
On se remet de la fatigue
d'hier. Ah oui, surtout... Je me pose la question, à quoi servent encore les nuits électorales? On croyait qu'on aurait pu avoir gagné quelques informations, mais...
On a entendu en vain.
À quoi sert encore? Mais sous d'autres yeux, quand on passe la nuit électorale...
Mais tout a été annoncé comme si, justement, ça allait beaucoup changer cette fois-ci, bien sûr.
Non, ça a seulement changé au moment des tendances.
Justement, on aurait les tendances.
Surtout que nous avons 39 circonscriptions électorales. Ce n'est plus une seule circonscription électorale. Les CELI devaient déjà avoir une idée de la des tendances.
Et hier même, le président de la CENI rassurait tout le monde, même d'ailleurs à travers l'émission, que mais déjà, quand les résultats tomberont à travers les CELI, ce serait affiché directement sur l'écran, mais bizarrement, nous n'avons rien vu.
C'est du bluff.
Nous n'allons pas dire quand même que c'est du bluff. Alors, oui, nous allons parler. Non,
oui, en fait, on a circulé deux bureaux de vote, pas toutes les circonscriptions électorales, hein, mais certains bureaux de vote. On a une idée
tout à fait
de ce qui se passe.
Justement, nous aurons vraiment l'appréciation des uns des autres sur ce sujet dans un instant. Mais comme nous sommes au mardi, nous allons parler d'abord culture. Parlons culture. Eric, dans votre journal de ce matin, vous écrivez le festival All-Star Bats international s'ouvre le 17 mai prochain à Lomé. De quoi s'agit-il exactement, Eric?
Oui, effectivement, vous savez que désormais, le breakdance, comme nous on l'a connu quand on était jeune, qui a évolué et qui est devenu le breaking dance aujourd'hui, est désormais une compétition olympique. Et donc, le comité international olympique a décidé de mettre la danse, cette danse, le plus souvent hip-hop et tout ça, et le battle, a mis ça dans les compétitions olympiques. Et donc, il y a une association qui est créée au Togo depuis pratiquement quelques années, je veux dire depuis 2007. Et cette association essaie de promouvoir cette discipline. Enfin, je ne sais pas si l'idée, c'est de participer un jour aux Jeux Olympiques. Mais cette association a été créée depuis 2007 et elle essaie de promouvoir le breakdance dans notre pays. Et elle fait un peu dans un festival qui est soutenu par l'Institut français du Togo, par son association Créatif.
Togo Créatif.
Togo Créatif. Et donc, ça fait la troisième année consécutive que cette association organise un festival qu'on appelle All-Star Battle International. Et donc, ce festival-là s'organise au Togo et un peu partout dans la sous-région. Puisque l'association qui s'appelle No Limits Crew Association, NLCA, ne fait pas qu'au Togo, mais elle évolue également dans la sous-région, dans les pays de la sous-région, d'où l'organisation de ce festival-là qui est organisé en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Mali, un peu partout dans la sous-région, justement pour promouvoir cette danse-là qu'on appelle le breakdance. Et donc, à partir du 17 mai prochain, ce festival-là va s'ouvrir à Lomé. Et il y aura également une partie à Palimé. Et donc, l'association annonce l'événement et a fait un programme conséquent où il y aura même un concours très intéressant sur la chorégraphie. Et donc, il y aura des associations chorégraphes internationales qui vont participer à cela, et donc il y a des prix intéressants qui sont organisés et même la promotion de la chorégraphie à partir de cette organisation.
Isda, je ne sais pas si vous aimez le breakdance, mais alors c'est une belle initiative. Alors
non, moi j'ai commencé par le smurf avant d'arriver à breakdance, qu'on appelle aujourd'hui breaking dance. Et quelle année c'était ça? Dans les années 79-80?
C'était en 82. Mm-hmm. En 82, il y avait le smurf. Mm-hmm. Et déjà en 86, il y a le breakdance.
Mm-hmm. Voilà. Donc, on n'est pas par ces écoles. Mm-hmm. Mais on a aussi un confrère qui a une association, l'homme.
Oui, l'homme Atisobé.
Je crois que c'était lui qui est l'initiateur
du projet. Non, il n'est pas l'initiateur. Je pense quand même qu'il a su plutôt la communication. C'est vrai, je ne sais pas trop.
Ouais, ouais. Mm. Non, non, il est le président des associations qui promeuvent le breakdance.
D'accord.
Et donc, à partir de son association aussi, il organise un concours national pour quand même tirer les meilleurs groupes qui pourront participer aux Jeux Olympiques de Paris en juillet prochain.
D'accord.
Donc okay. C'était l'avènement de la musique électronique. Et on avait eu beaucoup de... Maintenant, cette tendance a disparu. La musique électronique qu'on connaissait à l'époque, on ne le sent plus. C'est devenu une autre chose. Et il y avait la danse robot à l'époque qu'on faisait. Bon, j'avoue que je n'ai plus suivi les prestations de ces breakdance, mais ça s'est transformé en hip, les hip-hop. Parce qu'il faut faire des gymnastiques et des acrobaties, même danser avec sa tête tournée, faire des acrobaties.
Et c'est aussi du sport.
C'est du sport. Ah oui. C'est devenu une discipline et quoi de plus normal. Parce qu'il faut avoir des compétences en gymnastique pour pouvoir exécuter ces pas de danse.
Mmh. Ali Legar, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour auditrice, bonjour chers confrères en studio.
Ah, tu as oublié les auditeurs.
Bonjour à tous les
personnels. Plus les auditrices.
Les auditrices et auditeurs de Canal FM. Mmh.
Vous aimez le breakdance?
Bien sûr, j'aime surtout l'aspect aujourd'hui tel que le confrère le fait, à qui que je félicite au passage, et l'homme à Tshitobwe. Vous savez, tel que c'est fait aujourd'hui, en tout cas la coordination qu'assume notre confrère et l'homme, c'est l'occasion au même moment de faire la promotion de l'environnement. Et vous allez voir, même dans le déroulé de leur programme la dernière fois, ils ont fait des dons à certaines communes qui ont bénéficié justement de leurs activités, et il s'agit un peu de nettoyer un peu des coins, de rendre des endroits propres, et donc de faire certains dons pour l'entretien, notamment les comment se les appeler, que ce soit les balais, les râteaux, un peu de tout ce qu'il faut pour pouvoir cacher tout ce qui est déchet, en tout cas ramasser tout ce qui est déchet. Donc c'est pour dire que au-delà de l'aspect physique, puisque la santé passe par là, aussi, en aval, il faut, quand on est en bonne santé, il faut quand même continuer à mettre au propre là où on vit. Mmh. Et c'est ce que je pourrais dire, j'apprécie en tout cas ce côté-là. Mais par rapport à ce que le doyen Isidore a dit, anciennement, tout ce qui se fait, en tout cas, nous autres, on ne connaît pas.
D'accord. Et je voulais vous intéresser.
Je voulais lancer un coucou quand on parle de la chorégraphie à un Togolais qui a amené la chorégraphie au Togo, mais sans grand succès, As Aïgan. Oui.
As Aïgan.
Il est où actuellement?
En temps, j'ai appris qu'il était en France et il était parti normalement se perfectionner et revenir sur le terrain et continuer par enseigner les jeunes qui aimaient quand même la chorégraphie. Je me rappelle, c'était au lycée de Tourcoing,
oui.
Et dans le gymnase du lycée de Tourcoing, il entraînait les gens et les même les parents qui voulaient se défouler un peu le week-end, il les recevait et il travaillait avec
eux. Et ça ne continue plus.
Mais non, il s'est arrêté.
Il va prendre de l'âge, hein. Est-ce qu'il aura encore ses réflexes?
on ne sait jamais. Un sportif, vous savez, quand vous êtes un sportif de haut niveau, quand vous arrêtez subitement, et vraiment la santé prend un coup. Mais je pense que en tant que grand sportif, il va continuer quand même à s'exercer. Sauf que il a disparu et normalement, au cours de grands événements, As Aïgan présentait quand même ses prestations au public, mais là, il a complètement disparu
sur la scène. Mmh, d'accord. Eric, nous restons toujours avec vous. C'est vrai que nous avons connu le festival à l'heure du livre en papier, mais aujourd'hui, vous nous parlez à l'heure du festival du livre audio et vous écrivez que la littérature par la voix à sa troisième édition, c'est ça?
Eh bien, vous savez, nous sommes en train de décrier quelque chose dans notre pays. Malheureusement, c'est que la culture pratiquement laissé pour compte. Même s'il y a des efforts qui se font, mais il n'y a pas d'organisation en ce sens-là. Et tout ce qui se fait aujourd'hui, soit ce sont les centres culturels comme l'Institut français du Togo ou Goethe Institute qui se déploient pour nous organiser des choses là. C'est également un festival du livre audio que l'Institut français du Togo est en train de nous organiser. Et donc, c'est la troisième édition. Et donc, là, on va encore faire la promotion du livre à travers le numérique. Et donc, les livres, aujourd'hui, on encourage les éditeurs à envoyer leur production sur le numérique afin que les gens puissent lire, puisque tout le monde a un smartphone aujourd'hui. Et donc, les gens préfèrent lire un peu. Mais personnellement, c'est un peu délicat pour moi parce que quand je touche le livre, j'ai plus envie de le lire que de le prendre sur Internet. Par contre, vous savez, on est à une nouvelle génération. Et donc, les jeunes préfèrent lire tout à travers leur smartphone, à travers leur tablette, etc. Donc, c'est la promotion de ce pan de lecture que l'association FCODIO Edit est en train de nous organiser à l'Institut français du Togo.
Et on a l'impression que des gens ne lisent plus. C'est ce que nous disons même d'ailleurs. C'est un constat qui est partagé par beaucoup de personnes. Mais maintenant, quand on ramène le livre à l'audio, vous pensez quand même que les uns les autres pourront écouter?
Non, moi, c'est un nouveau concept pour moi. Comment un livre peut être en audio?
Oui, mais ça existe, hein. Mm-hmm.
Alors, les gens, c'est l'intelligence artificielle qui lit ou bien il y a des gens qui posent la voix,
oui,
qui lisent
sûr,
et vous écoutez.
Mais
vous écoutez.
C'est ça.
Comme les films radiophoniques.
Non, c'est comme vous allez aujourd'hui sur les grandes radios, ils font des podcasts qu'ils laissent et là, vous allez écouter.
Oui, ça, c'est des podcasts.
Et c'est
la même chose,
c'est
la même méthode.
C'est la même méthode qui est utilisée. Donc, et ici, vous écoutez, vous suivez, et voilà.
Donc, il y a quelqu'un qui lit.
Oui, il y a souvent quelqu'un qui lit et vous écoutez.
Voilà. Comme c'est les films radiophoniques qu'on
voilà,
essaie.
Voilà.
Ça rend encore plus paresseux. Ça rend encore plus paresseux.
Pourquoi vous dites ça?
Mais écoutez, lire, c'est-à-dire, il y a l'orthographe aussi.
Oui.
Et vous vous cultivez à travers ça. C'est ça, même le bon sens, mais de la lecture physique que nous faisons.
Oui.
Vous découvrez certains mots. Ça vous renvoie au dictionnaire. Mm-hmm. Vous pouvez chercher, vous améliorer votre bagage. Ça va nous rendre plus paresseux.
Ce n'est pas que l'audio, il y a ce qu'on appelle l'e-book. Et donc, ça est écrit et vous lisez aussi.
Non, c'est là. Pas,
vous voyez cela. Oui, allez, le grand.
Là où Eric avait chuté, je crois que la modernisation, le monde d'aujourd'hui avec la technologie. Et bon, en tout cas, c'est une question d'époque. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup préfèrent ça. Bon, je ne dirais pas beaucoup préfèrent la lecture à travers le bouquin audio. Je ne dirais pas ça puisque je ne sais pas encore. Mais beaucoup maintenant sont plus dans l'éthique. De sorte que la difficulté même, lire un ouvrage aujourd'hui, c'est pénible. Moi, personnellement, je viens d'avoir moi-même, nous qui sommes dans le studio, moi, je n'ai plus lu un bouquin en entier, ça a duré. Laissons un peu les petits bouquins d'à peine 200 pages. Les bouquins en bonne et due forme, comme Émile Zola le dit en terminal, je crois. Aujourd'hui, on ne peut plus humer, on ne peut pas vraiment respirer ce qu'on lit.
L'odeur parce même d'ailleurs.
Comme Eric l'a dit, quand tu n'es pas au contact matériel de l'œuvre, quand tu ne tiens pas l'œuvre, tu sais par exemple que tu as lu de la première page à la 30e page et que tu t'arrêtes là pour te faire une idée. Enfin, tu as une idée, tu essaies de faire un résumé et que c'est maintenant, il faut prendre juste son smartphone ou rester quelque part et écouter l'audio. Je pense que ce serait moins formateur. Et la tendance, moi je me dis même que, est-ce que c'est pas aussi la source de la baisse du niveau? Quand on parle des élèves et étudiants aujourd'hui, moi je me dis non, c'est pas forcément le même niveau.
Si on fait c'est la promotion, si on fait c'est la promotion de cette littérature là, c'est que pour le moment c'est pas forcément ancré dans les habitudes. Mais là, on veut plutôt que
nous amener vers là.
Voilà, on veut nous amener vers là. Et vous savez, c'est vrai, hein, c'est, comme on dit, l'habitude est une seconde nature. Nous, nous aurons beaucoup de peine à écouter
un livre qui nous est récité.
Surtout quand vous êtes habitué à lire le livre papier.
Ah oui, papier, c'est ça.
Et puis là aussi, à l'écoute, il n'est pas évident que vous puissiez vraiment retenir le mot qui vous est difficile.
C'est de ça que vous parlez, de retenir le son.
Alors que l'orthographe, ce que vous avez lu, tout de suite, vous cherchez à savoir de quoi il s'agit. Ah tiens, c'est un nouveau mot pour moi. Alors qu'en écoutant, je me rappelle les premières années, aujourd'hui les choses ont évolué à l'université, il y a beaucoup de... C'est le polycope, il y a beaucoup de polycope maintenant, mais dans le temps, il y a des profs qui disent carrément, il n'y a pas autrement. Mais le monsieur, il est rapide. Maintenant, tu mets ce que tu as entendu, quitte à toi de vérifier chez l'autre collègue. Peut-être lui aussi, il a écrit n'importe quoi, mais tu lui dois ramasser n'importe quoi. Voilà. C'est pour dire qu'en écoutant, c'est plus difficile en tout cas. C'est moins formateur que de lire avec les yeux, enfin, tous les sens.
Avec tous les sens.
Avec tous les sens. Mais écoutez, bon, je me dis, tu risques de prendre la, enfin, la voix, mais ce n'est pas le vrai mot, peut-être, que tu aurais,
tu aurais pu garder.
La phonétique.
Voilà.
Alors, merci beaucoup, chers confrères. Nous allons quitter cette question de littérature ou de la culture en général. Et vous le savez très bien, nous sommes au lendemain de ces élections législatives et régionales qui ont eu lieu hier, 29 avril. On en parlait, Eric, tout au début, justement, on en parlait avec les tracassuriers des journalistes, pour couvrir ces élections. Alors, beaucoup de journaux sont revenus alors sur le sujet aujourd'hui, quoi de plus normal. Alors, Eric, vous titrez à la une de votre journal « Élections législatives et régionales 2024, les deux modes de scrutin et le calcul des résultats ». Vous continuez, vous dites « Élections législatives et régionales 2024, en toute sérénité, la tension envisagée n'était qu'un leurre ». Alors, le journal Symphonie qui titre à ça une élection législative et régionale dans la paix aux alus d'une présidentielle. Un autre journal, c'est bien le journal L'Audience, Ali Le Grand, vous titrez à la une de votre journal et élection du 29 avril, vote dans le calme et la sérénité hier. Alors, Eric, quand on suit ces journaux, on dit tout simplement que tout ce qui s'est passé hier, c'était dans la paix et la sérénité.
Évidemment. Moi, je veux d'abord tirer un grand chapeau au peuple togolais, parce que ce que nous avons toujours eu au cours des élections passées, cette fois-ci, c'est carrément différent. Comment pourrons-nous expliquer cela? Et moi, personnellement, je me dis, c'est peut-être le peuple togolais qui a eu plus de maturité en termes d'acceptation de la chose démocratique. Et c'est vrai, on a dit que les forces de sécurité ont joué leur rôle, la CENI, le gouvernement et tout le monde, mais tout le monde peut bien parler, tout le monde peut donner des conseils, mais il revenait au peuple d'accepter cela. C'est pour ça, je dis personnellement, que tout ça s'est bien déroulé grâce à la maturité du peuple togolais. Parce que nous avons eu la chance d'envoyer des collaborateurs un peu partout dans cette région. Nous avons subdivisé le pays en sept régions, à savoir Savane, Kara, Centrale, et Plateau Est, Plateau Ouest, et Maritime, et puis et Grand Lomé. Et donc, les retours qu'on a eus depuis le démarrage de la campagne jusqu'au vote hier soir, véritablement, avec moins d'incidents, il y a eu quelques... Bon, enfin, ça doit se passer quand même, parce que c'est des hommes qui sont en train de rechercher des voix, et par conséquent, les gens sont sur le terrain, il y a des messages qui sont différents, mais on a remarqué qu'il y a eu moins d'animosité. On n'a même pas senti beaucoup cela. Et puis, il y a un phénomène qui s'est passé et lors des messages qui sont passés sur les médias nationaux, mais des messages qui n'ont pas été dilués cette fois-ci, qui n'ont pas été coupés.
Les messages qui ont été livrés tout cru.
Tout cru. Mmh. Et ça, je crois que ça a également contribué à ce que les gens se disent, ah tiens, donc nous pourrons aller sur le terrain dire ce que nous ressentons. Et évidemment, ça a été fait dans une ambiance bon enfant. Je dirais tout simplement que oui, comme tout le monde l'a remarqué, c'est en toute sérénité que ce double scrutin
tout à fait.
S'est déroulé.
D'accord. Ali Legrand, est-ce que vous avez aussi les mêmes impressions?
Non, j'ai pratiquement les mêmes impressions, d'autant plus que nous nous retrouvons dans ce studio aujourd'hui et que depuis avant-hier à la veille ou le jour J ou aujourd'hui en tout cas, par la grâce de Dieu, nous n'avons rien entendu de quoi que ce soit. Le jour même du scrutin, nous avons fait le tout vraiment, comme il a dit. Moi personnellement, j'étais dans la zone du Golfe et à Guayivé. Mais sincèrement, moi je dis quand même félicitations à nous tous. Nous tous qui sommes Togolais, félicitations au gouvernement et en amont. À la CENI qui ont quand même su jouer à l'élégance. Et l'élégance parce que je suis en train de voir aussi bien la HAC que la CENI. Au niveau des médias, des messages délivrés, j'ai vu un peu ce qui s'est passé, comme Eric vient de le dire. Vous savez, par le passé, il y a certains messages que vous ne pouvez pas tenir. Les partis politiques, même le temps qui est accordé, on a l'impression qu'il y a des moments, ce n'est pas respecté au prorata. Mais là, je dis quand même, il y a eu un pas de plus positivement que nous avons fait, que tout le pays a fait. Et donc, chapeau à tout le monde. Au même moment, sur le terrain, hier par exemple, quand vous circulez, moi je dis ce que la CENI a fait en termes d'innovation, en introduisant le 10-10. C'est une très bonne chose. Parce que vous savez, les bureaux de vote, moi je n'ai pas voté dans le bureau de vote.
Le 10-10, ça vous aidait à retrouver rapidement votre bureau de vote.
Pareillement, autour de moi, il y a beaucoup d'autres personnes que j'ai aidées. Vous savez, là aussi, tout le monde ne sait pas écrire ni lire. Tout le monde ne pouvait pas composer ce numéro-là. Lorsque autour de vous voyez les gens s'interroger, alors là, il suffisait de composer ce numéro sur le portable. Vous voyez tout de suite, les gens sont retrouvés. Ça fait qu'il y avait aussi moins d'affluence. À plein d'endroits, il y a des endroits où je suis passé, moi personnellement, là où j'ai voté. Mais écoutez, j'étais arrivé tout de suite, c'est seulement celui qui était devant moi qui était juste sorti et que j'ai aussi pu accomplir mon devoir civique. Pour dire que il y a eu de ces innovations qui ont beaucoup aidé. D'abord, l'esprit d'ouverture en termes de la liberté d'expression. Par rapport au candidat, comme je l'avais dit, chacun a pu livrer son message comme il le veut tout cru. Et ensuite, et la CENI qui a quand même su faire, et maintenant au niveau de la population, il y a eu cette maturité même qui est aussi due naturellement au travail que nous faisons ici au jour le jour. C'est pour cela que nous avons titré quelque part quand même, qu'on a tiré quand même pour une fois, hein, ce n'est pas une fois n'est pas coutume, la HAC quand même qui est arrivée à féliciter le travail professionnel qui est fait par les médias. Parce que vous savez, la dernière fois, il y avait ce courrier de la HAC qui informait, qui faisait une mise au point par rapport à la suspension des médias comme France 24 et RFI qui étaient, bon, par les réseaux sociaux, étaient vulgarisés. Mais le second message voyant en réalité que la HAC, je ne dirais pas que la HAC a caché, mais qu'il fallait lire, c'est que c'est le travail en tout cas remarquable et remarqué qui est abattu par les journalistes que la HAC a essayé aussi de mettre en regard en second point.
Tout à fait. Donc,
félicitations à tout un chacun de vous.
Merci beaucoup. Alors, Isidore, vous étiez aussi hier sur le terrain. Nous avons animé même une émission spéciale hier. Vous avez appelé dans cette émission pour nous faire le point. Alors, dites-nous, quelle appréciation vous avez fait de cette journée électorale?
J'ai une autre lecture, une interprétation des faits. Les faits sont là. Mais il faut interroger les faits. Ce qui est constant, c'est qu'il y a une faible affluence. Ali Legrand essaie d'expliquer ça par les bureaux de vote qui ne sont plus gonflés, mais je me dis, interroger les résultats, les taux de participation.
En fait, pour le moment, nous n'avons pas un taux de satisfaction nationale.
Alors là, tu fais une grosse erreur.
Non, mais justement...
Je t'ai dit qu'on a 39 circonscriptions électorales.
Non, je parle du taux de participation.
Chaque circonscription électorale doit avoir son taux de participation. ce n'est pas national.
Non, Isidore, là, je parle du taux de participation nationale, que pour le moment, nous n'avons pas.
Oui, aujourd'hui, nous n'avons pas une circonscription électorale. On a 39 circonscriptions électorales. C'est différent. Là. C'est différent. Peut-être on va en revenir.
Et tout à fait.
Bon. Et je me suis posé cette question. Est-ce une résignation, un désamour? C'est ma grande interrogation. Nous ne sommes pas là pour jeter le bébé avec l'eau de bain, mais il faut qu'on s'interroge. Pourquoi les Togolais ne sont pas allés nombreux voter? Quand je suis sorti aujourd'hui, je scrutais l'index gauche des Togolais. Peu ont l'encre indélébile.
Mais ils peuvent effacer également cela.
Ah, arrête. C'est grave ce que tu dis. C'est grave ce que tu dis. Donc, pour moi, c'est un sujet à réflexion. Est-ce qu'il y a maturité ou résignation ou désamour? Ça, c'est ma question.
D'accord.
Alors, Eric, je peux dire deux mots là-dessus. D'abord, vous savez que pour ce double scrutin, la CENI a fait quelque chose de très important. À cause des problèmes qu'on a eus par le passé dans les bureaux de vote, la CENI a éclaté les centres de vote. Justement pour permettre aux gens d'aller, de voter et de repartir.
Et cette fois-ci, il y a plus de 5 000, hein, en plus.
5 212 ou quelque chose comme ça. Et bureau de vote.
Oui, donc pratiquement 14 000, voilà. Justement.
Ce que je voudrais dire, c'est que quand c'est comme ça, les gens peuvent venir voter et repartir, vous ne pouvez pas tout de suite évaluer le taux de participation. Personnellement, là où j'ai voté, quand je suis arrivé, il n'y avait pratiquement que 2 ou 3 personnes devant moi. Mais tout de suite, ces personnes-là étaient sorties et j'ai dit, mais vous avez fini? Ils me disent oui. Alors, je suis rentré, ça s'est vite fait. Et moi, c'est parce que je devais faire mon travail, je devais rester là pour voir un peu l'affluence, pour voir un peu comment ça se passait. J'y suis resté un peu, mais les autres, quand ils sont sortis, certains ont dit, on revient pour le dépouillement. Et donc, je vais dans d'autres centres. Je remarque également que les gens n'attendaient pas. Les gens venaient.
Il n'y a pas de file d'attente.
Il n'y a pas de file d'attente en tant que tel. Par contre, ce que mes collaborateurs m'ont dit à partir de l'intérieur plutôt, il y a eu des files d'attente parce que il fallait expliquer à chaque votant.
La lecture.
Et donc, c'était un peu plus délicat. Et on avait vu, j'ai des photos que mes collaborateurs ont envoyées par rapport à ces files d'attente-là. Donc, ce qui veut dire que ailleurs, on peut remarquer qu'il y a un peu d'affluence et ailleurs, non. Parce que les gens n'attendaient pas du tout comme par le passé.
D'accord. Eric, ce que Isidore évoque, je pense quand même que c'est quelque chose alors de crucial, parce que hier, lors du dépouillement, j'étais parti également au sujet Baguida, et qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que par rapport au nombre des inscrits, il y a 347, mais dans certains bureaux de vote, j'ai constaté que il y a que 94 votants. Et quand vous rentrez également dans d'autres bureaux de vote, vous trouvez également des chiffres comme cela. Il y a pratiquement 347, 346, mais vous retrouvez comme nombre votant, 98, 94.
Très bien. Je voudrais te faire remarquer ceci. Ce que tu as vu à Baguida, c'est pas ce que Isidore a vu à Kondjoviakopé.
Non, je suis d'accord.
D'accord.
C'est que moi, j'ai dit
ça. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre. Ici, on est dans une seule circonscription électorale.
Je suis d'accord.
Et là, Isidore parlait de 39 circonscriptions électorales. On ne peut pas prendre justement ce qui se passe dans une seule circonscription électorale pour en faire un cas général.
Je ne suis parfaitement d'accord.
C'est ce que je voulais...
Non, je ne suis pas d'accord avec Isidore. Pourquoi ? Parce que le constat est là.
Le constat est là.
On entend maintenant le taux de participation.
Oui.
Parce que là, quand vous parlez, je ne veux pas faire le parallèle entre et ce que nous déplorons comme faible participation par rapport à la maturité du peuple togolais. Est-ce une résignation?
Oui.
Est-ce un désamour?
Isidore.
Est-ce que les gens ont encore confiance au monde de d'évolution du pouvoir par les urnes?
Moi,
d'accord. Et oui, Eric, s'il vous plaît, on laisse Ali s'exprimer.
Oui. Vous savez, par endroit, hier, j'ai beaucoup circulé. Sauf qu'au moment du dépouillement, je n'ai pas été à beaucoup d'endroits. Parce que, naturellement, il fallait rester jusqu'à la fin pour voir l'attitude des gens, le moment où ils essaient de finir, la réaction des représentants des différents partis, des partis politiques. Et donc, du coup, le constat là, par rapport à ce que les collègues, les collaborateurs ont rapporté aussi, il y a des endroits, justement, où il n'y a eu, il n'y a pas eu d'affluence. C'est-à-dire, quand on prend, par exemple, un bureau de vote comme vous arrivez à au CEG à Gide Gomé ici, quand vous y arrivez par exemple et que vous voyez 220 inscrits par exemple, et comme vous dites 180 ont voté, quelque part il y a eu moins de taux de participation rapport à certains endroits. Quand vous allez par exemple, c'est toujours dans le golf, là c'est le golf 4, mais quand vous allez encore à côté, juste à côté, vous rentrez, il y a un autre CEG, je sais pas si c'est ça, oui, CEG à Madaoumé. Quand vous rentrez là, mais vous allez voir que pratiquement tout le monde est sorti pour venir voter. Et au même moment, on vous dit que à Agoué, au lycée Agoué, à côté là où le concert a eu lieu la dernière fois, et vous allez voir aussi le taux de façon qui est très élevé. Parce que moi, je me dis, quand vous allez un peu derrière, il y a Agoué, Carrefour Bleu, c'est pas à côté du séminaire là-bas, vous allez voir aussi le taux, ça n'a pas aussi chuté que ça. Parce que quand on vous dit 400 et quelques sont inscrits dans le jeu de vote, et que finalement, il y a eu 394, par exemple. Bon, je ne vois pas en termes de... Mais, pour le moment, moi, je ne peux pas me prononcer sur ça de manière formelle.
Tout
parce
à
que
fait.
C'est une question de circonscription électorale, de région, un peu de tout. Et donc, on entend d'ici les heures qui vont arriver, ce qui est sûr, ça ne va pas trop traîner.
D'ici la fin de la semaine,
on sera tous situés par rapport à la
semaine. C'est trop.
Oui, moi, je dis d'ici quelques heures. D'ici quelques heures.
Le code électoral qui demande 6 jours.
Voilà. Tout à fait.
C'est un peu ça.
Alors, Isidore, ce que les confrères ont évoqué, je pense quand même que c'est pertinent par rapport au fait que ce que nous avons vu peut-être ici, soit puisque. Pour moi, puisque ce que j'ai vu à Badida, c'est pas forcément alors ce qui se passe alors dans toutes les circonscriptions électorales.
Moi aussi, j'ai des retours d'Ogou, de Palimé.
Oui, justement.
C'est
pratiquement les mêmes tendances. Les mêmes tendances.
Là, par exemple, c'est dans le Cloto où il y a des files d'attente. C'est hier. On a eu ces images dans les savanes. On a eu des files d'attente.
On attend.
Là, même par rapport aux images aussi, ça peut être circonstanciel, comme on l'avait expliqué.
Oui,
c'est-à-dire qu'il y a des endroits, justement, il y a des attentes. Et comme je l'avais dit même, vous savez, le message, moi j'ai aidé plein de gens hier, par exemple. J'ai aidé plein de gens. Vous savez, les gens ne retrouvaient pas leur bureau de vote. Mais ils n'ont pas eu l'idée de composer, malgré toute la communication, ce n'est pas tout le monde. Qui avait l'information même. Donc le 10-10 là, il fallait aider les gens à composer, à se retrouver. Il y avait des gens. Donc en ce moment, il y a des gens qui se sont attroupés par endroit. Il y avait de l'attroupement par endroit. Mais avec pour des raisons diverses. Et donc du coup, moi je dis pour le moment, aller sur ce point, on risque de tout
faire. C'est un terrain glissant.
À l'heure où nous sommes, nous ne pourrons pas parler de taux de participation.
Tout à fait. Si la CENI n'a pas évoqué alors un taux de participation.
Et d'ailleurs, même, c'est ce qui nous est recommandé. Et donc, je pense que...
Oui, en fait, on n'est pas dit ce qui n'est pas officiel.
Non, mais on parle de taux de participation, on ne donne pas des tendances.
Oui,
Non, c'est grave ce que tu es en train de dire.
Non.
On ne nous a pas interdit.
Non, nous sommes en train de faire.
Nous ne donnons pas des tendances.
Non, nous sommes en train de faire le débat. On ne donne pas des tendances. On ne donne pas des tendances. Éric.
Lorsque nous parlons de taux de participation, ça nous envoie où?
Mais à la mobilisation.
Oui.
De la population.
Mais
et voici les populations ont encore comment dirais-je, cette envie d'aller voter. Moi, je dis, j'ai un indice, hein, allez circuler, demandez, voir. Attention, faudrait pas que les forces de l'ordre.
Il faut que ces gens-là que tu vois, peut-être qu'ils ne se sont pas inscrits. Ils sont des Togolais en âge de voter, mais qui ne se sont pas inscrits.
J'ai rencontré beaucoup qui ont dit qu'ils ne peuvent plus aller voter.
On a vu ça en 2018. On a vu ça en 2018.
Mais je t'ai dit, mais les gens, ce que tu dis là,
c'était pas inscrit.
S'il vous plaît, allons-y.
Je sais que tu as rencontré des Togolais qui ont dit qu'ils ont la carte, mais ils ne veulent pas aller voter.
Personnellement, non.
Alors là.
Vous en avez rencontré.
Fais avoir encore le sondage.
Oui. D'accord. Voilà, Eric, c'est vrai que hier, avec la nuit électorale, on attendait que au moins les tendances soient communiquées au cours de cette émission, ou du moins c'est de la nuit électorale. Mais nous étions restés sur notre soif là.
Oui, évidemment. Moi, j'étais encore sous presse. Et donc, j'attendais quand même à voir cette tendance-là pour en parler un peu dans le journal, puisque les lecteurs vont chercher l'information ce matin. Et donc, on a attendu et finalement, on nous a dit, bon, ok, voilà, nous vous remercions pour avoir suivi la nuit électorale.
Oui, hein?
On n'a même pas fait un clin d'œil à la CENI. On n'a pas envoyé d'image de la CENI qui travaillait sur les votes. Mais c'est quand même curieux. C'est la première fois qu'on organise une nuit électorale et on n'a pas de tendance.
Non, ça a toujours été le cas.
Annie Legrand,
au moins, on dit quand même que, bon, voilà, on a eu des résultats
de telle localité ou du moins de telle circonscription.
Là, rien du tout.
Moi, j'avoue, personnellement, vraiment sur ma soif et j'étais déçu.
Tout le monde.
J'étais déçu parce que vous aurez constaté que c'est ce matin, carrément, autour de 2h du matin, que moi j'ai pu balancer même la une. Parce qu'on avait fini, on n'attendait que ça. Depuis de toutes les rédactions, en tout cas, du moins ce qu'on travaillait hier, c'était ça. En tout cas, c'était le plus important.
Quelle imprimerie a pu travailler?
Allez, vas-y.
C'est pour dire qu'en tout cas, pour la nuit électorale, il y a eu un grand raté. On n'a pas suivi la même chose en 2020. Si vous vous rappelez, en 2020, ce n'était pas ça. Vous allez voir là même l'image de la CENI, l'institution même qui est l'institution adéquate, enfin, qui pilote la chose. On n'a pas vu. À la fin, on entend un message, juste on vous remercie pour l'avoir suivi. Alors que le fond de ce que tout le monde attend n'est pas arrivé. Puisque le message de la CENI même était clair initialement. Les tendances allaient être communiquées au fur et à mesure dans la soirée là même. Et donc, naturellement, quand vous faites un travail, vous êtes dans ce domaine-là, vous ne pouvez qu'attendre ça. Maintenant, c'est à la fin, c'était que la déception.
C'est vrai que même tout au début de l'émission, je le disais bien sûr, que le président de la CENI a annoncé que déjà, il y aura une innovation. C'est ce qu'il a dit, qu'il aura une innovation.
Et
l'innovation, c'est que, allez, dès que les CENI envoient les résultats automatiquement, ce serait affiché sur l'écran et nous allons retrouver ou nous allons voir ces résultats. Mais et pourtant, nous n'avons rien vu.
C'est un appât pour vous scotcher à la nuit électorale. C'est à cela que je dis que je suis tellement déçu. Et on a le courage de le dire et de le reconnaître. Que est-ce que ces nuits électorales servent à quelque chose? Si ce n'est que des insomnies que nous aurons. Il faut qu'on se pose cette question véritablement et qu'on puisse au moins annoncer les tendances, au moins le taux de participation. Ça, il devait déjà l'avoir. Le taux de participation, le nombre d'inscrits Ils peuvent donner des données générales. Mais ça
pour la petite anecdote, j'ai lu dans un groupe, quand on a balancé le communiqué de la CENI, comme quoi il y aura les premières tendances.
Ce soir même, au cours de la nuit.
Quelqu'un a mis, c'est faux.
Parce qu'il n'y croyait pas.
Et voilà, je suis tenté de lui donner raison, parce qu'on n'a rien eu. Moi, j'ai attendu jusqu'à 3 heures du matin avant de...
Moi, je somnolais.
Oui, c'est historique, c'est la première fois, parce que c'est double scrutin, il y a les régionales. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va falloir que la série nous situe. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce qu'en 2020, je me rappelle, pour la présidentielle, on était tous déjà situés la nuit. Ah oui, la nuit de l'élection, pour la nuit électorale, on était bien situés par rapport à la tendance.
Moi je...
là,
le peuple...
Alors, vrai que c'est... Hier, l'innovation dans ce processus, c'est en fait le fait que ce soit les régionales, c'est la nouveauté. Maintenant, est-ce qu'il y a une complication particulière? Il va falloir qu'on nous tienne informés. Parce que finalement, s'il faut être scotché devant l'écran, rester pendant des heures, et même, on n'attendait que ça pour nourrir nos colonnes, les colonnes de nos parutions.
D'accord. Que malheureusement, c'est d'accord. Isidore,
moi, je pense que cette fois-ci serait encore plus facile pour la CELI, en ce sens qu'on a 39 circonscriptions électorales. Si vous prenez seulement la circonscription électorale Golfe, qui est composée de 7 communes, on peut rapidement faire...
Rapidement, vous avez dit, ce n'est pas aussi facile.
Techniquement, moi, je ne dis pas que c'est compliqué.
Par rapport à une élection présidentielle où qui est seulement... une circonscription électorale et qu'il faut avoir même tous les bulletins de vote de Jacques Pega, d'Apaon, de Saint-Cassé, avant de faire la compilation. Sans cela, je dis que c'est un peu plus facile
de donner des tendances.
En termes statistiques.
Moi, je pense que généralement, les nuits électorales s'organisaient à la CENI. Mais là, on était en direct de la TVT et de New World.
Non, en fait, c'était depuis la série. C'était depuis la série.
C'est synchronisé.
Oui, c'est synchronisé. Voilà. C'était depuis la série.
Et donc, oui, mais pourquoi on n'a pas montré la CENI en train de nous...
C'est synchronisé.
C'est quand même...
Habituellement, l'image qu'on voit de fond.
Oui, Ali.
On faisait ça à la CENI. Dans la salle de conférence.
C'était justement dans la salle de conférence de la
CENI. Deux fois. En tant que président du PPT.
Oui.
Et on faisait les débats. Mais aujourd'hui...
Oui, le président du PPT
était là même là hier. Honoré Adontu était là.
Oui, c'est comme ça,
Le président de l'OTM et tout ça, tout le monde était là.
Mais Eric, dans ça, qu'est-ce qui pourrait constituer alors de problème? Puisque vous l'avez dit, c'est pour une première fois qu'on n'a même pas les tendances déjà à la nuit, dans la nuit électorale.
Personne ne peut le savoir. Seule la CENI peut nous situer sur cette situation. Donc, il y a un communiqué qui nous a dit qu'il y aura la nuit électorale où on aura des tendances. Donc, il nous faut maintenant un autre communiqué pour nous expliquer pourquoi on n'a pas eu les tendances hier. Je crois que seule la CENI peut nous situer.
Voilà, seule la CENI peut nous situer. C'est très important. Alors, Isidore, quand on prend les élections d'hier, au fin fond, cela rêvait où ces élections revêtaient même d'ailleurs aussi un certain nombre d'enjeux pour la population. Et c'est quoi vraiment cet enjeu?
Les enjeux sont de plusieurs formes. S'il advenait que la nouvelle constitution qu'on veut imposer au peuple togolais promulguée et diffusée au journal officiel, donc ça s'impose à tout le monde. En ce sens que l'élection de 2025, l'élection présidentielle de 2025 n'existera plus. Ça, c'est le grand enjeu. Le président de la République ne sera plus élu au suffrage universel direct. mais indirecte. Et ça fait des élus de ce double scrutin les grands électeurs qui vont choisir non seulement le Premier ministre qui, dont la domination a changé, en président du Conseil des ministres, qui a tous les pouvoirs. Et les deux chambres, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, vont désigner le président de la République, qui ne serait là que pour honorer les chrysanthèmes. Voilà.
C'est pas évident.
Voilà l'enjeu. Et est-ce que c'est bien expliqué au peuple togolais?
Justement, c'est ça la question.
Je ne le pense pas. Je ne le pense pas en ce sens qu'il y a un vice de procédure. On a validé les candidatures pour les 12 scrutins législatifs et régionales avant qu'on nous sorte ce régime parlementaire. Il aurait fallu que le régime soit déjà présenté et chacun saura que bon, parce que aujourd'hui moi je peux rêver de devenir président de la République par voie et universelle directe, et c'est le lendemain que je sens que non, je n'ai plus cette possibilité.
Faut plus rêver.
Ah, voilà. Voilà la situation.
Par le régime
parlementaire. Et là c'est encore ben, il faut expliquer ce régime là c'est ce que j'ai constaté. Et je pense que l'enjeu, les enjeux qui entourent ce discours n'a pas été bien expliqué au peuple togolais.
Et Ali Le Grand, est-ce que vous avez aussi l'impression que l'enjeu n'a pas été vraiment expliqué aux populations?
Moi, je ne peux pas avoir cette impression. Parce que tout au début, avant le 25 mars, je pouvais encore le dire. Comme quoi il n'y a pas eu assez de communication par rapport au régime parlementaire, en tout cas à la modification de la constitution, sinon au changement du régime. Mais au vu de tout ce qui s'est passé après le 25 mars, c'est-à-dire que quand en première lecture l'Assemblée nationale avait adopté le texte, la nouvelle loi fondamentale, et qu'il a fallu que cela puisse attendre, que cela puisse être revu en deuxième lecture, plutôt adopté en deuxième lecture, et qu'il faut aller consulter les populations et différentes organisations, ce qui a été fait, moi je dirais que bon, en termes de communication, le pouvoir en place et l'Assemblée nationale ont su se racheter. Parce que avant le 25 mars, je dirais oui, moi-même personnellement, je n'étais pas suffisamment informé. Mais là, moi je sais encore lire. Mais pour ceux-là qui sont là, qui ne s'y connaissent pas. Bon, qu'est-ce que on pourra leur expliquer? Qu'est-ce qu'ils peuvent imaginer encore? Mais je pense que dès lors que le tour a été fait, les quelques jours qui ont été accordés, ils ont eu à rencontrer différents organismes.
On parlait de l'âge consultation, c'était
oui,
ça?
Moi, oui, justement, c'était l'expression qui était utilisée.
En deux jours.
C'était l'expression qui était utilisée. C'est pour dire que moi, à cette étape-là, en termes d'enjeux, j'estime que, bon, Isidore a rappelé les enjeux. Je suis entièrement d'accord. Si désormais, pour ceux qui seront élus, par exemple au niveau des régions, ben, vous savez, il y a forcément des gens qui seront au Parlement. Il y aura la Chambre basse et la Chambre haute. Il y aura le Sénat, la Chambre haute. Et avec ces députés de l'autre côté, ils vont désormais élire le président, qui est désormais élu au suffrage universel.
Indirect,
voilà. Et donc, l'essentiel est dit, mais pour dire quand même que si c'est histoire de communication, moi j'estime que la communication a eu lieu. Peut-être que quelqu'un, j'ai entendu la dernière fois dans un panel qui disait que non, l'opportunité même, en tout cas, oui, l'opportunité même de cette décision de modifier le régime en place, enfin, la constitution.
Le régime politique.
Oui, bon. Et le pouvoir qui est là à son agenda cela pouvait être fait peut-être en 2022 ou début 2023, qui n'aura pas eu tout ce bruit qu'il y a eu courant le mois de mars.
Puisque beaucoup de personnes se posaient la question de savoir, voilà, mais c'est quoi l'urgence?
Parce que c'est arrivé à un moment où la machine électorale était déjà démarrée pour les élections régionales et législatives. Donc, du coup, ça fait plus de bruit. Ce qui est sûr, la constitution, quand même, n'est pas n'importe quel texte. C'est une loi fondamentale. C'est normal que le son changement puisse vraiment donner plus d'engouement, amener plus de réactions. Mais l'opportunité même, le moment où la décision a été prise, de faire le fait que ça coïncidait avec le processus électoral,
d'accord.
Je pense que c'est ça qui a fait que...
D'accord, merci beaucoup, Ali. Merci beaucoup, Ali. Eric, vous titrez sur un article alors dans votre journal « Élections législatives et régionales 2024, les deux modes de scrutin et le calcul des résultats ». Qu'est-ce que vous voulez dire?
Non, mais parce que, vous savez, on est allé à ces élections et on va donner des résultats. Le plus souvent, c'est à la proclamation des résultats qu'il y a plus de problèmes parce que les gens ne sont pas d'accord par rapport aux résultats donnés. C'est-à-dire que on dit dans telle circonscription électorale, voilà, tel parti ou tel candidat est gagnant et les autres sont perdants. Mais les gens vont se dire, mais comment ça se fait? Comment on a fait les calculs pour que ce soit celui-ci qui soit élu et pas d'autres personnes? Et donc, nous avons essayé d'expliquer un peu les deux modes de scrutin et les calculs qui se font pour désigner les vainqueurs, c'est-à-dire pour donner les résultats. C'est vrai que nous sommes dans un scrutin à suffrage universel direct, c'est-à-dire que vous allez voter et on va prendre les résultats pour désigner les vainqueurs et enfin c'est les vainqueurs qu'on désigne.
Par quel mode?
Voilà. Maintenant, le mode, vous savez déjà que le scrutin est à liste bloquée, c'est-à-dire que il y a une liste qui est là. Vous ne pouvez pas aller dans l'urne pour dire je veux voter tel et non tel. La liste est bloquée, vous venez vous voter pour une liste. Et donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un scrutin à liste bloquée. Maintenant, pour les législatives, on parle de scrutin à la représentation proportionnelle pour les deux. Mais pour comment ça s'appelle,
les
législatives, pour les législatives, c'est un scrutin proportionnel de liste à la plus forte moyenne. À la plus forte moyenne. Là, on parle de quotient électoral. C'est-à-dire que pour avoir ce quotient-là, on prend le suffrage exprimé et qu'on divise par le nombre de députés à avoir dans la circonscription.
Quotient de représentativité.
Quotient de
représentativité.
Représentativité forte moyenne. Tandis que pour
les régionales,
c'est au plus fort reste.
Mais est-ce que ce n'est pas trop technique? Est-ce que cela
Oui, c'est pas très difficile si on représentait cela tout de suite. C'est-à-dire que, si je prends un exemple, on a au total 5 000 qui ont voté et on cherche 5 députés dans la circonscription électorale. Pour avoir le quotient de représentativité, on fait 5 000 divisé par 5. Donc, ça me donne 1 000. Donc, s'il y a un candidat...
Une liste.
Une liste qui a déjà 2 000 suffrages exprimés, votants. Donc, déjà, on a 2 sièges. S'il y a une autre liste qui a 1 500, il y a 1 000, il y a un député et il va rester 500.
500.
Donc, la première étape, c'est qu'on donne, on attribue les députés par rapport au nombre de suffrages obtenus.
Exprimés.
Maintenant, pour la deuxième étape, c'est que là, on prend le reste.
Le reste
de chaque liste. On ajoute, un député fictif. Et on dit, par exemple, qu'il y a 500. Il reste combien? Il reste 3. Donc, on fait... Il restait 2. Donc, 2 plus 1, ça fait 3. on fait 500 divisé par et 3. Et là, on fait ce calcul-là quand on a la plus forte moyenne et on attribue encore les députés qui restent à ces listes-là.
D'accord.
Donc, maintenant, par rapport aux élections régionales, c'est le plus fort reste. Donc, quand vous avez 300 à avoir comme nombre, déjà, ce qui vous reste, si vous avez 600, vous avez déjà deux conseillers régionaux.
À ce niveau, je vais compléter.
Oui.
À la différence de refaire encore une moyenne des restes, pour dégager, pour les législatives, pour les régionales, comme il avait si bien dit, s'il restait deux sièges, celui qui a le plus fort reste prend le siège.
Dans le temps, ce qui se faisait, c'est que si on va à une élection, celui qui a la force moyenne,
représentativité,
prend tous les députés,
les députés de
la circonscription. C'est-à-dire que on a 5000 voix et on cherche combien 5 députés. Si vous avez 2500 et que les autres ont 1800, 2000, tout ça, 2500 prend tous les députés de la
circonscription. Voilà. Dans le temps, il y a aussi ballotage.
Oui.
S'il advenait, oui, il y a ballotage. Oui. Ça, c'est le suffrage direct, sans liste.
Sans liste, voilà.
Ça, sans liste.
Maintenant, dans tous ces calculs, qu'est-ce qui avantage plus alors le citoyen?
Oh,
mais c'est à l'accord politique global, la PSG, que on avait soit à choisir entre ce qui se faisait avant et ça, et donc les politiques ont choisi ce mode de scrutin.
D'accord.
Et c'est ce qu'on utilise depuis 2007.
Ok, d'accord. Ce qui est sûr, les citoyens doivent savoir que pour les députés, c'est 113 sièges qui sont retenus. Et pour les régionales, c'est 169, justement.
Pour les modes de scrutin,
oui, Isidore,
nous ne sommes pas dans une séance de gestion électorale. Sauf que les deux modes ont leurs avantages et leurs inconvénients.
Ouais, ça,
quand vous prenez le suffrage direct, même pour les députés, c'est en cela que il y a des ballotages. Et les ballotages, vous avez suivi ce qui s'est passé entre Atazus et quelqu'un d'autre. Bon, maintenant, pour le scrutin de liste, je crois que c'est plus modéré, mais ça aussi crée problème, même au sein des partis, au sein de la liste. C'est ce qui était arrivé, je ne sais quelle année, 2013, je ne m'abuse, et lors des élections où le CST avait présenté une liste de députés. Et ça dépend maintenant des positionnements.
C'est en 2013.
Et c'est ça qui a donné le clash entre le OBU et l'ANC et ses consorts. Je crois que le même problème risque de se passer. C'est pourquoi j'avais posé la question à Madame Adjamagbo. S'ils se sont entendus avant de positionner les gens sur la liste. Et ce problème aussi s'est passé au niveau du NIR.
D'accord.
L'UNIR, oui, il y a ce problème de positionnement.
D'accord, ok, merci beaucoup, cher confrère.
C'est ça le danger, le scrutin de liste.
Justement, voilà, cher confrère, merci beaucoup.
On a demandé à l'homme d'aller mouiller les maillots.
Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs, puisque ils nous ont écoutés pratiquement pendant une heure de temps. Nous allons leur donner aussi la parole, mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour la guérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114 91 36 63 75 pour participer au débat. Nous avons notre premier auditeur que nous insérons. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour.
Oh.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment vous allez?
Ça va bien, c'est Johannes.
C'est Johannes, allez-y.
Je salue le plateau. C'est juste par rapport au fameux taux de participation. On peut ne pas... C'est-à-dire, le taux de participation, ce n'est pas un secret d'État. Quand Isidore parle de... Lorsque Isidore parlait de chiffres, il nous parlait plutôt de files d'attente. Les files d'attente ne donnent pas une indication du taux de participation. Parce que comme quelqu'un, l'autre journaliste l'a dit là-bas, une file d'attente peut être quelque chose de circonstanciel. Voilà, il arrive dans des bureaux de vote où la grande majorité viennent voter la matinée et puis c'est fini. Il y a plus d'affluence jusqu'à la soirée. Voilà. Le taux de participation, mais comme vous l'avez dit là-bas, sur 300, il suffit de voir le nombre de votants sur le nombre d'inscrits, et puis on peut facilement se faire une idée. Mmh. C'est pas en voyant les files d'attente, c'est pas sur ça qu'on va se calquer pour se faire une idée du taux de participation. Merci.
Merci beaucoup, Johannes. 22 21 33 114 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez nous appeler et réagir au Club de la Presse de ce mardi. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Gado.
Oui, lui-même.
Oui, allez-y.
Bon, mon problème est qu'on fait des élections pas aujourd'hui. On met pour une fois. On ne peut pas nous dire les résultats le même jour. Mais au Sénégal, présidentiel, le même soir. Et Togo, quand est-ce qu'on va changer? Merci, bonne journée.
Allez, bonne journée, M. Gado. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce mardi. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. Vous pouvez intervenir. Allô? Oui, bonjour, Basile.
Comment vous allez?
Ça va, et chez vous?
Bon, je n'ai pas suivi les débats, donc, comme de coutume, je dois appeler. C'est pour vous saluer seulement.
Merci
pour
beaucoup.
Pour les élections, il y a eu des brailles bien.
Merci beaucoup, Basile. Je pense que c'est bien fait de nous avoir appelé pour nous saluer. Merci. Comme vous avez dit déjà que vous n'avez pas suivi l'émission, suivez l'émission et pour que vous réagissiez. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom c'est
Abraham depuis Dapaon.
Abraham, vous nous appelez depuis Dapaon.
Oui.
Allez-y, Abraham.
Oui, je venais réagir à propos des citoyens qui ont voté.
Oui, Abraham, oui, nous vous écoutons. Allez-y.
Oui, j'ai suivi un peu Japon. J'ai suivi un peu trois bureaux de vote où le nombre de participation de vote est vraiment inférieur au nombre d'inscrits. À la fin des votes, il y a eu un souci aussi que j'ai remarqué. Le nombre de bulletins de vote dépassait plus le nombre de citoyens qui sont venus, c'est-à-dire les électeurs. Je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas eu de bourrage? Et je réagis à propos du régime où nous sommes en train d'aller. Il y a eu... des jeunes à qui on pose une question de savoir c'est quoi le régime parlementaire, aucune idée. Et beaucoup de femmes n'en savent pas, mais pourtant que la population est plus majoritairement féminine. Voilà, des femmes qui ont voté, qui sont parties voter des députés, ils ne savent pas qu'est-ce que les députés-là serviront. Voilà, moi, ma participation.
D'accord, merci beaucoup Abraham depuis Dapaon, 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse. Allô. Allô. Allô, bonjour. Allô. Ah, il ne nous écoute pas. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse. Allô.
Oui, bonjour monsieur.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Oui, très bien. Merci pour l'émission.
Oui, mais c'est monsieur.
C'est monsieur Serafin depuis Togo.
Monsieur, s'il vous plaît, votre radio à côté de vous fait un peu de bruit, diminuez le volume. Oui.
Monsieur Serafin depuis Togo 2000.
Ah, Serafin, allez-y.
Oui, oui. Juste pour participer à l'émission, pour dire que si aujourd'hui, lors du 21e siècle et jusqu'alors, on n'a pas de tendance plutôt de participation et autres, ce que voudrait dire que ce qu'ils ont vu sur le terrain, alors ce qui se passe, ils ne peuvent pas expliquer à donner un peu de parce qu'ils sont en train de réfléchir pour le moment pour voir quel truc pour donner. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup.
Alors, monsieur Serafin, merci. Bonne journée aussi. 22 21 33 114 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Appelez-nous et réagissez par rapport surtout au sujet débattu ici au club de la presse d'aujourd'hui. Nous avons parlé alors des élections législatives et régionales. Allô? 22 21 33 114 91 36 63 75. 22 21 33 114. Allô? Allô, bonjour. Allô. 22 21 33 114 91 36 63 75 91 36 63 75. Allô.
Allô.
Oui, bonjour.
Mais j'aimerais participer à l'émission.
Oui, vous y êtes. Votre nom c'est Allô, votre nom?
Allô.
Oui, votre nom.
Allô.
Allô, je vous écoute. Votre nom c'est
Allô.
Ah là, décidément, il n'y a pas de retour. 22 21 33 114 91 36 63 75. Nous recevons un autre auditeur. Allô? 22 21 33 114 91 36 63 75. 91 36 63 75. Allô? Allô, bonjour. Allô? 22 21 33 114. Allô? Allô, bonjour.
Bonjour.
Oui, comment vous allez? Votre nom c'est
Albert.
Allô?
Oui, allô, je vous écoute.
Oui, mais nous avons du mal à vous écouter. Aussi un peu la voix.
Oui, c'est Albert.
Albert, vous nous appelez de quel quartier?
De Tavier, Thévier.
Ah, de Thévier, allez-y.
Donc, moi, je vois que jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à 7 heures, les tendances ne sont pas proclamées, c'est que ça n'arrange pas pays unir. Ça n'arrange pas unir. Parce que déjà, mon président a parlé du bourrage et on a donné une liste. Maintenant, ceux qui sont allés voter sont en moins. Et on voit dans les urnes et on voit dans l'urne le vote dépasse le nombre de votants. Or, c'était dit que ceux qui sont allés voter sont en moins, sont au-dessus du nombre de votants. Vous voyez déjà, donc, moi, je vois que ça ne les arrange pas en train de trouver des voies et moyens pour encore vous faire du mal. Je vous remercie.
Albert, voilà, 22 21 33 114 91 36 63 115, quand vous appelez, réagissez sur les sujets débattus ici au club de la presse. Nous avons débattu alors de beaucoup de sujets, notamment les élections d'hier, bien sûr. Allô.
Allô.
Oui, bonjour.
Allô.
Oui, bonjour Papa Sibiti.
Bonjour toi.
Comment
bonjour,
vous allez?
Plateau.
Ça va, bonjour.
Merci pour tout ce que vous faites.
Merci beaucoup à vous aussi.
Pour ces élections, grâce à vous, tous les Togolais, hors du Togo, seront au courant de ce que je veux. Moi, ce que j'ai regretté, c'est la participation. Vous allez faire ce que vous dites. Pourquoi? C'est l'opposition qui ne sait pas, qui n'a pas réagi, ou bien, mais compte tenu de la propagande ou bien campagne de l'UNIR, moi, compte tenu de mon âge et mes expériences, je pense que c'est l'UNIR encore qui va prendre. Hein.
Oui, mais papa Sibiti, vous n'avez pas encore les résultats.
Oh, on n'a pas les résultats, vous voyez. Vous-même, vous le savez. Ce qui va
non, je ne sais rien.
Attendons de voir. Vous le savez.
Je ne sais rien, papa Sibiti. Merci beaucoup. Bonne journée. 22 21 3314 91 36 315. C'est seule la CENI qui est habilitée quand même à proclamer les résultats. Nous n'avons pas alors ce droit alors de proclamer les résultats. Non. 22 21 3314 91 36 315. Allô.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Seigneur Mavo.
Seigneur Mavo, monsieur.
Allez-y.
Comment le taux de participation, on l'a vu, il n'y avait pas de queue. On l'a senti quand on faisait les campagnes. J'étais avec une vieille à Goye. Il y avait porte à porte de UNIR. Une jeune fille qui disait à une vieille que, bon, la vieille dit qu'elle a longtemps voté UNIR. C'est toujours le charbon. Et quoi, et Soudia, elle vend. Qu'il n'a qu'à quitter, que ses enfants ont fréquenté, ne trouvent pas à faire jusqu'alors. À la suite de dire à la vieille que maman a au long à Capolassa, elle a appelé ma fille qui fait campagne. Ce n'est pas comme ça qu'il faut parler. Il ne faut pas parler comme vos supérieurs. Tu vas présenter un charme. Ce n'est pas ça. Il ne faut plus ça ailleurs. Du côté de l'opposition, oh, le rouge n'est pas là. Qu'est-ce qu'on peut tout faire? On connaît les résultats d'avance. C'est comme si les électeurs sont plus intelligents que les politiciens. Que tout ce qui est en train d'être préparé là, ils vont avec le gouvernement aux élections, c'est donné cutus à ce qui est en train de se faire, qu'il ne veut pas se mêler à ça. Donc, il se désengage. Donc, on a tout ça. Il dit, toi, tu es en train de souffrir. Tu veux que ton enfant souffre comme ça le lendemain? Et ton enfant aussi n'a qu'à venir goûter ça. Donc, eux autres ne veulent même pas se mêler. Vous voyez, d'ici peu, si la malveille conscience l'a promulguée, unir c'est auto faire coup d'État et le président va assumer la transition avant de nommer un nouveau président. Vous voyez? Courage à nous tous.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur Nyamavo. 22 21 33 114 91 36 75. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir le dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce mardi. 22 21 33 114 91 36 73 75 91 36 73 75. Allô? Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, c'est Johannes qui revient.
Oui, Johannes, allez-y.
Je me dis aussi que l'abstention, la forte abstention qu'on a constatée, c'est un message fort pour l'opposition. C'est-à-dire, c'est un message que la population a envoyé à l'opposition. C'est vrai, la population dit tout le temps que nous sommes fatigués de ce régime. Mais cette abstention est un message pour dire aussi à l'opposition. À l'opposition, dit que nous sommes fatigués de la même chose. Et l'opposition doit savoir qu'ils doivent changer de paradigme. On doit arrêter les mêmes choses. Moi, je suis de ceux qui n'acceptent jamais qu'on demande à l'opposition d'être unis pour aller à l'élection. Parce que le problème dans notre pays, c'est d'avoir des élections transparentes. Mais la situation fait aujourd'hui que, pour une fois, pour une situation donnée, l'opposition doit mettre balle à terre, doit mettre ses divergences de côté ou cibler une élection et aller en rang serré. Tant qu'une seule partie de l'opposition n'est pas capable de pouvoir couvrir le territoire du nord jusqu'au sud, il faut qu'on se dise que nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir être présents dans tous les bureaux de vote pour pouvoir empêcher les fraudes. Il y a des images qui circulent, des rumeurs comme quoi il y a des tentatives de fraude qui ont été empêchées.
D'accord, merci.
Mais
beaucoup,
on ne sait pas le nombre de tentatives qui a été réussies. Donc il faut que l'opposition sache qu'ils doivent changer de paradigme pour les prochaines élections.
D'accord, merci beaucoup, Johannes. Johannes, vous êtes le dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce mardi. Chers confrères, nous revenons en plateau, pardon. Eric, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer. Quelle est votre appréciation de tout ce que vous avez écouté de nos auditeurs?
Au-delà de tout, si ces
élections-là qui intéressent plutôt les auditeurs.
Tout à fait, puisque nous avons parlé de la culture.
Voilà, ça veut dire que les enjeux sont vraiment énormes et importants pour chacun des Togolais que nous sommes. Maintenant, quant aux considérations par rapport au taux de participation, aux présumées fraudes et tout ça, je pense que la CENI est la seule institution habilitée à nous donner plus d'éléments pour que nous puissions apprécier. Il y a eu déjà un rapport de la force pour les élections qui n'a pas mentionné grand chose par rapport aux difficultés sur le terrain pendant la campagne et pendant le vote. Donc je crois que globalement pour nous ce qui s'est passé est très important, et je crois que je le redirai toujours, c'est par rapport à la maturité du peuple togolais. Que les gens se disent aujourd'hui, nous n'allons plus nous intéresser à la politique ou nous n'allons pas faire la politique. Attention, aujourd'hui, avec ce qui se passe, il faut que tout le monde participe à la vie sociopolitique de notre pays. Parce que autrement dit, personne ne le fera à notre place. Il faut qu'on s'y implique. Tout le monde doit le faire. Parce que quand vous laissez le terrain politique à quelqu'un ou à un adversaire, comme le dit un grand homme, il l'occupe entièrement.
Merci beaucoup, Eric. Ali Legrand.
Non, moi je crois que tout est dit. Hein. Maintenant, espérons que dans les heures qui suivent, que chacun de nous, chaque Togolais, les auditeurs qui viennent d'appeler, puissent être situés. Parce que vous savez, plus il y a le silence, plus il y a les supputations. Et chacun y va de son analyse et puis ça peut donner des idées à chacun. Et vivement que le climat de paix qui a régné jusque-là puisse continuer et que nos Togolais, chacun puisse voir plus librement à ses occupations.
D'accord. Merci beaucoup, Ali. Isidore ?
Non, de tout ce que les gens ont dit, ils ont déploré le fait que la CENI n'a pas pu donner ni les tendances et autres jusqu'à présent. Et je maintiens ma position en disant que ces élections étaient plus favorables. Je ne dirais pas favorables. Permettrait plutôt à la CENI de donner ne serait-ce que les tendances dans chaque circonscription électorale. En attendant, au moins pour rassurer les gens, puisqu'on n'a pas besoin de compiler tous les bulletins avant de dégager celui qui est en pole position. Qu'à cela ne tienne, moi je pense que les Togolais n'ont plus foi aux élections qui s'organisent. Ça doit interpeller la classe politique, y compris l'opposition et le pouvoir, pour dire aux Togolais que ce n'est pas les unes que nous allons toujours élire nos représentants, mais vivement que la vérité des unes soit proclamée.
D'accord. Merci beaucoup, Isidore. Je reste avec vous pour votre note de fin d'émission.
Oh, à qui donner la note, c'est peut-être à la population, au peuple togolais.
À toute la population, oui, au peuple togolais.
Qui ne s'est pas mobilisé.
C'est combien
derrière, vous donnez? Je donne 4 sur 10.
4 sur 10 au peuple togolais. Alors, oui,
je donne
Eric,
9 sur 10 au peuple togolais.
Vous donnez 9 sur 10 au peuple togolais.
50.
Vous donnez
9,50
au peuple togolais pour la participation. Merci. Chacun sa manière d'apprécier.
Je demande au peuple togolais de rester véritablement soudé et serein quand les résultats aussi vont tomber.
D'accord. Merci beaucoup, Eric Johnson, d'être passé dans cette émission. Merci, Ali Legrand, d'être passé aussi dans cette émission. Isidore Akolor, merci d'être passé dans cette émission. Nous sommes à la fin, vous avez compris. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Thomas était d'ATV, était à la mise en onde de cette émission. Et Jérôme Akucha a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Loussou. Je vous retrouve déjà jeudi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse, puisque demain est férié, c'est la fête du travail. Bonne fête de travail à tous.